sans véritable étiquette, sinon la qualité.
Bien fait de venir. Hein.
Donc, ça met de bonne humeur.
La marque de la bête, Noir Lagune et Lorena on the Rocks, 4 tomes parus de La Peau des Rêves, Le Dernier Ours, et une série Arachnae, Citerie et Matricia. Xavier Mauméjean.
Bonjour.
Qui écrit toujours entre imaginaire et réalité, un peu dans les marges, avec Craven, Gotham, un roman dont on va peut-être parler, Car je suis Légion, La Vénus anatomique, et deux grands romans, Lilliputia et American Gothic, qui est son dernier, qui est paru chez Alma. Et aussi des essais sur la vie de Hercule Poirot et la vie de Sherlock Holmes, mais aussi les morts de Jack l'Éventreur, etc. Oui, les vies, les morts, tout l'intéresse. Pierre Bordage, ben, une 30aine de romans, une 10aine de nouvelles. Là aussi un peu tous azimuts. Et je n'ose pas dire pour lui comme pour les autres, la qualité est au rendez-vous, parce que c'est vrai.
C'est bien.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut sortir ben, Les Derniers Hommes, qui avait été publié en feuilleton chez Librio et puis repris en un seul volume, et qui avait fait le plaisir des gens qui découvrent le bonheur d'avoir des histoires à suite, comme dans les Spirou et les Tintins d'antan. ou, pour parler plus loin, les Eugène Sue et les Alexandre Dumas. Alors, La Fraternité du Panka, L'Ange de l'Abîme, plutôt L'Évangile du Serpent, L'Ange de l'Abîme et Les Chemins de Damas, etc. Voilà, tout est placé là, si vous voulez en savoir plus. Alors, dans la bio du site des Imaginales, au nom de Charlotte Bousquet, il est marqué qu'elle est fascinée par la mythologie et les contes. Et je voulais savoir si d'abord c'était vrai, et si ensuite, pourquoi.
Alors, oui, fascinée, je ne sais pas si c'est le terme. Mais à un moment, c'était fascinée par les vampires, donc voilà. Mais intéressée par la mythologie et les contes, bien sûr, c'est vrai, c'est une source d'inspiration, c'est... Les contes sont aussi, je dirais, à la source des grandes histoires de la fiction, des grandes histoires de l'humanité, la mythologie aussi. Et je trouve que c'est là qu'on trouve les... Excusez-moi, il est tôt, en fait. Qu'on trouve, en fait, des sources d'inspiration, qu'on trouve tout ce qui est passion, je dirais passion presque primitive, de la haine, la vengeance, l'amour destructeur, ce genre de choses. Et évidemment, où sont traités des tabous comme l'inceste, là je pense à Œdipe, et je pense que c'est une source inépuisable d'imagination et d'inspiration.
Mais quelle mythologie ?
Moi, grec essentiellement. Un petit peu, bon, en vieillissant, j'essaie de m'ouvrir un petit peu, donc je m'intéresse pas mal aux Inuits, aux Amérindiens, à tout ce qui vient en ce moment de l'Est. Voilà, la tragédie grecque, beaucoup, donc ce qui n'est pas mythologie, mais qui parle aussi de mythologie. En ce moment, je suis assez fascinée par le personnage d'Antigone. Voilà, et les contes Grimm, les figures, différentes figures, par exemple, de la Belle et la Bête aussi, et ce genre de choses.
Pierre, les mythologies vous ont aussi formé dans votre début d'écrivain, ou ben, encore maintenant
Ça s'est joué quand j'étais petit. Il fut un temps que j'étais petit. Longtemps. Et j'avais un parrain qui m'offrait à chacun de mes anniversaires un petit conte, un petit recueil de contes et légendes mythologiques du monde entier. Et j'ai toujours été fasciné par les mythologies dans le sens où ça me procurait un effet immédiat qui s'appelle l'effet vertige que je retrouve dans la science-fiction. C'est-à-dire que quand j'étais plongé dans une mythologie, je n'étais plus là. J'étais transporté immédiatement dans l'ailleurs, et c'est un effet que j'ai toujours recherché après, aussi bien en tant que lecteur, et donc que j'ai découvert avec la science-fiction plus tardivement, et en tant qu'auteur, c'est-à-dire proposer le vertige, c'est-à-dire décoller le lecteur de son réel pour mieux le ramener à son réel après, mais ça on pourra s'en Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Charlotte, je pense que tous les grands archétypes humains se retrouvent dans les... Ils sont déjà installés dans les mythologies du monde entier. Donc il y a mythologie grecque, bien sûr, qui est la plus connue, parce qu'elle est directement référente pour nous, mais aussi les mythologies des autres civilisations, entre autres l'indienne, qui m'a beaucoup intéressé, africaine parfois, amérindienne aussi. Beaucoup tout ce qui était Graal et tout ça, et aussi les versions primitives du Graal, hein, c'est-à-dire les vieux contes celtiques. Je pense que les schémas narratifs avaient été installés à cette époque-là par les grands auteurs. Moi, mon maître à penser ou mon modèle, c'est Homère, hein, tout simplement. Je ne sais pas s'il a existé d'ailleurs. En tout cas, l'entité qui s'appelait Homère, c'est mon grand modèle, parce que je pense qu'il est insurpassable et c'est indémodable, c'est-à-dire que c'est encore d'actualité de nos jours. On peut très bien se passionner pour les aventures d'Ulysse encore, ou pour la guerre de Troie, comme on se passionne pour une aventure de science-fiction, etc. Donc je suis installé, je suis coulé dans le moule de ces auteurs-là, et j'ai l'impression de n'avoir non seulement de ne rien inventer sur le plan narratif, mais de bénéficier de leur empreinte narrative à eux. Donc ça continue évidemment de me former. J'espère que je n'aurai pas fait peur. C'est toujours inquiétant de voir des gens se lever, de dire, merde, j'ai dit une connerie. Non, mais restez, c'est pas très grave. oui, je suis... J'ai bossé avec Alain Grousset sur un projet qu'on fait à deux, la Gigante, où il fait partie jeunesse et moi. Il m'a dit, oui, c'est parce que lui, il bosse de façon structurante et moi littératurante, comme il dit. C'est-à-dire que je fais pas de plan. En gros, il me dit, oui, mais toi, voilà, t'es forgé par les mythologies. Et effectivement, je pense que j'ai ces structures narratives là en moi, à force d'avoir lu des mythologies, qui fait que c'est assez spontané chez moi, je pense. Je dois beaucoup ça à mes lectures d'enfant. Et j'oublie un élément qui est très important. Quand j'étais au petit séminaire, entre 10. Restez, c'est pas grave. Quand j'étais entre 10 et 14 ans au petit séminaire, je me suis farci la Bible pratiquement tous les jours. Et la Bible est un formidable creuset d'histoire aussi.
Xavier, Car je suis Légion, qui est un vos romans, se passe à Babylone, 8e siècle avant ou 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est inspiré par l'histoire babylonienne et les mythologies babyloniennes, ou, comme le nom est « Car je suis Légion » qui vient de la Bible, plutôt par les mythes christiques?
Mais en fait, les deux, parce que, oui, il est totalement inspiré par les mythologies et l'histoire de Babylone, et « Car je suis Légion » est une sorte de référence valise emboîtée, parce que ça renvoie donc à Satan, dont l'étymologie désigne l'adversaire ou l'accusateur, qui était le terme désignant les magistrats à Babylone. Alors moi aussi je suis effectivement nourri de mythologie, je crois que c'est de contes. Comme auteur, bien sûr, ça m'a nourri. J'ai entendu des choses que je pourrais redire de mes amis qui sont exactement les mêmes. Je ferai une petite parenthèse parce que j'y tiens, donc je dirige des livres, des directeurs de collection, et parce que Charlotte n'en parlera pas, j'ai dirigé son roman La Marque de la Bête.
Pourquoi j'en parlerai pas?
Non, non, parce que
il voulait justement parler.
Parce que c'est un conte, parce que c'est mythologie, donc je.
Eh ben oui, mais on a parlé des contes aussi.
Bon, alors tant mieux, ça me met à l'aise. Et, La Marque de la Bête est un splendide roman. Qui était ce que je voulais faire, ce que je fais aussi en tant que directeur de collection. Et c'est pour dire que je vous invite à le lire parce que c'est un conte avec une forme intemporelle et elle prouve, Jérôme Noirez l'a fait aussi pour La Dernière Flèche, que ces contes sont vraiment immortels et qu'ils questionnent et apportent des réponses qui sont à la fois toujours les mêmes et variant selon les époques. Et c'est un très beau livre.
Et qui touche à des choses aussi contemporaines.
Et qui permettent de traiter
c'est ce qui fait la force de... C'est ça qui était intéressant dessus, de traiter aussi de l'inceste,
mais voilà.
Qui reste un tabou.
Et absolument. Et je pense que c'est dit dans les contes avec les mots. Et ce qu'on peut dire d'une époque et d'autres époques permet justement de le dire avec un langage adapté Et dans American Gothic, il y a c'est ma déclaration d'amour à Charlotte Bousquet. Vous allez, je vais me mettre à genoux tout à l'heure. Hein. Parce que justement, il y a des affinités comme ça d'auteurs et de thèmes. Je pense que les trois ont les mythes et les contes. Dans American Gothic, il y a des passages, des conversations. Il y a quelque chose dont tu m'avais parlé, que j'ai connu par toi. Je te laisse de quoi. Ah, bon, voilà.
Je ne sais pas ce que ça fait, mais
voilà.
Bon.
Alors maintenant.
Vous allez prendre un café après, vous allez en parler.
Voilà, non, mais bon, c'est par nous, on est là pour parler. Parlons. ah oui, moi j'adore les mythologies. La mythologie la plus ancienne, je crois que j'ai travaillé pour un roman, c'est effectivement Car je suis Légion. Mais depuis mes derniers travaux, en fait, j'ai inversé, je m'intéresse énormément à la naissance d'une mythologie, ce qui est. Rarissime, parce que nous, en tant qu'Européens, on a des mythologies puissantes, mais installées. On peut les faire parler autrement, mais elles sont déjà là. Et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'auteur, c'est ces dernières années, d'interroger une nation jeune, les États-Unis, qui est un peuple rare, puisque composé d'éléments provenant de différents peuples. Je crois que c'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité, un peuple fait d'agrégats d'autres peuples. Je ne sais pas. Enfin,
je dirais qu'il y a l'Australie, mais.
Oui, voilà.
Mais le grand, c'est les États-Unis, voilà, quand même. Voilà. Ouais.
Et donc, qui n'a pas. Qui a une terre neuve, belle, etc., mais qui n'a pas de mythologie, hors, bien sûr, celle qu'ils ont d'abord écrasée, puis récupérée, qui est la mythologie native amérindienne. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment une nation en arrive assez vite, puisqu'elle est jeune, à créer sa propre mythologie, c'est-à-dire une mythologie qui va rien devoir, pense-t-elle en tout cas, aux mythologies européennes, et qui est une mythologie paradoxale, puisque plutôt tournée vers le futur. C'est une mythologie qui s'invente, je pense, ces images à venir. Et donc, c'est pour ça que je pense que les mythologies sont une forme de récit total, puisqu'elles sont toujours vivantes, et elles anticipent même l'avenir, et elles parlent aussi à l'avenir. Voilà. Je vais
dormir. En fait, tu as déjà répondu à toutes les questions que je m'étais mise là.
Je lisais, en fait.
Il est dans la merde, là.
Mais Charlotte, on a parlé de la marque de la bête, mais tout le monde ne connaît peut-être pas la marque de la bête. J'aimerais bien que tu racontes un peu.
Donc, la marque de la bête, c'est une réécriture de Podane. Et ce qui m'a vraiment intéressée dans ce conte, à la base, c'est que Bettelheim n'en parle pas. Hein, dans la pièce qu'elle analyse les contes de fées, on analyse énormément de contes, mais pas, je n'ai pas la marque de la bête, mais c'est grave là. Pas Podane. Et sinon, c'est un truc qui est vaguement évoqué. Elle a de belles robes, elle a ce genre de choses. Or, ce qui est le cœur de ce conte, c'est quand vous avez un de vos parents qui tente de vous violer, vous faites comment pour vous en sortir? Et moi, c'était vraiment cette histoire de dépassement de limites de la part du père de Bruna, donc, puisque c'est transposé dans une fantaisie occitane, et la manière dont Bruna va essayer de s'en sortir, c'est comment je fais pour me reconstruire quand finalement j'ai plus de repères. Donc l'histoire de Bruna, c'est donc elle fuit le château de son père, et elle fuit avec la peau, qui n'est donc pas la peau d'âne, mais la peau du Morog, qui est une sorte de créature d'ombre. Je n'ai pas envie de dire maléfique, parce que je ne l'ai jamais considérée vraiment comme maléfique, mais qui est une espèce de force brute et primitive, qui va à la fois l'aider à s'en sortir, et en même temps qui va lui ronger toute sa part d'humanité. Et finalement, le combat de Bruna va devenir le combat de toute personne qui essaie de devenir elle-même. Je ne sais pas si c'est bien résumé, oui, Xavier, c'est, hein, c'est bien, hein, comme ça. Ouais.
J'ai rien compris, tu peux recommencer.
Non.
Pierre, l'évangile du serpent.
Pire,
ben voilà, c'est bien fait.
Merde.
C'est ton tour.
C'est mon tour.
L'évangile du serpent, là, c'est une autre mystique ou un autre mythe qui est mis en valeur ou qui est repris d'une autre façon. C'est le mythe du Christ,
oui.
Et donc raconte ça aussi. Comment est-ce que
L'idée, c'est que quand sur les États-Unis, j'ai vu qu'il y avait des Nouveaux Testaments dans toutes les chambres d'hôtel, je me dis, mais putain, ça fait sacrée vente finalement l'évangile. En réalité, bon, je vous ai dit que j'étais au petit séminaire, donc j'étais directement confronté à l'enseignement de l'Église, et donc qui est basé sur le Nouveau Testament, et non pas sur l'Ancien. Hein. C'est la différence entre les Juifs et les chrétiens, c'est le Testament, l'Ancien et le Nouveau. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à l'étudier. Et après, je regardais les enseignements du Nouveau Testament, et je me disais, mais qu'est-ce qu'on en a fait de ces enseignements ? C'est-à-dire, ne porter aucun jugement. Bon, l'Église a quand même cramé quand même quelques personnes au cours de son histoire. Donc il y a du jugement, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites. Tiens, etc., etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que fait l'Église de son propre enseignement ? Elle le détourne complètement. Enfin, c'est-à-dire que entre la parole imprimée dans les textes de l'Évangile, qui pourtant était reprise par les moines copistes, donc probablement édulcorée aussi, et ce qui est devenu l'Église, il y a un fossé, il y a un gouffre, il y a un abîme que je ne comprenais pas. Et donc je me suis dit, je suis plongé dans cette histoire-là et je vais réécrire un testament moderne avec un nouveau Christ qui est Vaikai, qui est un Indien d'Amérique, sauvé de la mort par un missionnaire qui le ramène en France, dans l'Aubrac, qui devient donc le Messie de l'Aubrac. Et j'ai raconté l'histoire exactement comme le Nouveau Testament, avec quatre évangélistes qui ont tous un rapport plus ou moins avec ce Christ, dont l'un est chargé de le tuer, l'autre c'est son disciple principal.
Et qui porte à peu près les mêmes noms.
Ils portent les mêmes noms, oui, sauf que j'ai mis Nana en plus, ça en manquait dans le Nouveau Testament. Il y a Lucie à la place de Luc, il y a Yann à la place de Jean, Matthias pour Matthieu et Marc pour Marc. Et donc j'ai raconté l'histoire de ce Christ vu par ces quatre évangélistes, chacun avec leur rapport, et puis voir comment, si un Christ arrivait de nos jours, comment il serait accueilli. Mal probablement, je pense, parce qu'évidemment son enseignement, comme celui du Christ, est radicalement différent de ce que l'on professe habituellement. Donc libérateur, comme le rôle d'un prophète. Je pense que la parole du prophète, c'est une parole libératrice, c'est quelque chose qui conduit vers la liberté intérieure. Or, de cette conduite vers la liberté intérieure, de cette ouverture vers la liberté intérieure, on a fait un instrument de répression terrible qui essaie de figer les choses, alors que je pense que la véritable spiritualité, c'est l'ouverture et le mouvement permanent. Donc on se rapproche plus du Tao, de ce genre de concept où c'est toujours paradoxal et en mouvement. Et donc voilà, j'ai essayé d'imaginer ce que serait devenu. Alors pourquoi j'ai pris un Indien d'Amazonie ? Parce que je me suis souvenu que l'aigle romain de l'époque dominait le monde, et donc le Christ, Jésus-Christ, venait d'une province romaine, hein, finalement, qui était la Judée. Et donc j'ai imaginé que l'aigle qui domine le monde, c'est évidemment les États-Unis, et je fais partir mon Christ d'une province américaine qui est l'Amérique du Sud, parce que l'Amérique du Sud est quand même sous la coupe de l'Amérique du Nord. Voilà, donc j'ai tout transposé jusqu'au jugement final du Christ qui est fait par le Sanhédrin dans le Nouveau Testament, et que là j'ai fait par la télévision, puisque c'est le grand juge des âmes, c'est la télévision maintenant, etc., etc. Et de voir comment l'arrivée d'un Christ pouvait bouleverser les valeurs et mobiliser finalement la réaction d'un corps qui se défend pour rejeter un élément nouveau. C'est la stratégie de l'abeille, ça c'était décrit par Bergson. À un moment, il disait qu'un comportement nouveau dans une ruche fait que toute la ruche s'affole, comprend pas ce qui lui arrive, et puis après réintègre le mouvement, récupère le mouvement pour le réintégrer. Et donc voilà, j'ai travaillé sur ces thèmes-là, avec aussi des miracles, parce que le miracle était quelque chose d'important, parce que c'est ce qui définit aussi le Christ quelque part, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'accomplir des prodiges. J'ai fait aussi accomplir des prodiges à mon Christ de l'Aubrac, même si le nom est un peu bizarre. En fait, j'étais fasciné par l'Aubrac une fois que j'étais allé en vacances là-bas. C'était un endroit où il y a un silence assez impressionnant, d'ailleurs, que mes enfants qui étaient petits, ils ont pleuré parce que c'est trop de silence à ce moment. Donc on a mis la télévision, une télé, quelque chose, la musique, la radio, n'importe quoi. Et voilà, quoi. Donc c'était une façon pour moi de réfléchir sur comment un enseignement nouveau qui arrive peut être récupéré et peut devenir exactement l'inverse de ce qu'il est au départ.
Et on dira encore que les lecteurs de l'imaginaire sont des adolescents attardés.
Et d'ailleurs, je suis un adolescent attardé aussi.
Nous le sommes tous.
Il n'y a pas de problème. Bah,
ce qu'il faut dire aussi avec les écrits de Pierre Bordage, c'est que ces romans sont toujours pleins d'humanité ou d'humanisme, mais que c'est jamais mièvre non plus. C'est, il faut, c'est pas les violons.
Ah bon, j'ai raté alors, je voulais mettre du mièvre.
Là, tu aurais vendu chez Harlequin, là.
C'est ça, le Christ Harlequin, oui. Pourquoi pas.
Dans la peau des rêves, Charlotte, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était plutôt une référence à Othello, cet ensemble. Racontez-moi.
Ah.
Racontez-nous.
D'accord. Alors, la peau des rêves, pour situer, c'est un peu le principe, c'est les milliers de nuits dans une Europe en ruine. Donc, ça se passe dans je ne sais pas combien de temps, peut-être pas si longtemps que ça. Les civilisations ont été détruites, il n'y a plus de technologie, et donc les gens donc il y a des humains, des chimères qui sont des métissages entre des humains et des animaux, et donc Cléo, qui est l'héroïne des deux premiers volumes, est une jeune fille qui vit dans un théâtre en ruine. Donc son seul accès finalement au monde c'est par les pièces de théâtre. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur l'aveuglement et donc de travailler sur Othello, qui est une pièce de Shakespeare que j'adore, avec un schéma, en reprenant un schéma à peu près pareil. C'est-à-dire que vous avez un Iago, qui en l'occurrence n'est pas un Iago, mais plutôt une jeune femme, qui va faire en sorte de travailler sur la jalousie de l'ami de Cléo pour le pousser au crime. Et à côté de ça, Cléo, elle, continue à être aveugle. Donc elle a cet accès au théâtre, elle a cet accès... il y a Cyrano de Bergerac, il y a Othello, elle connaît Shakespeare, elle sait ce qui se passe, mais parce qu'il s'agit de quelqu'un qu'elle aime, elle est complètement aveugle, elle est incapable de comprendre ce qui lui arrive. Donc c'était vraiment de travailler sur cette double lecture de ce qui est réel, donc finalement qui est la matière de la tragédie ou du conte ou de ce que vous voulez, en tout cas des passions humaines, et la manière dont on est capable de... le petit oiseau, c'était mon téléphone, mais c'est pas grave. Et la manière dont, en fait, par amour, mais quelle que soit la forme d'amour, on est capable de s'aveugler, de ne rien voir. Mais comme d'un côté, Othello, dans la pièce de Shakespeare, va lui être aveuglé par la jalousie, donc le monstre aux yeux verts et ce genre de choses. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais...
Oui. Est-ce que ça veut dire que ce que vous faites, en fin de compte, ce que vous écrivez, ce n'est jamais qu'une variation sur des thèmes donnés?
Mais j'ai l'impression que de toute façon, ce qu'on écrit, ce sera le nombre de personnes qui ont pu dire, que ce soit dans le domaine de la pensée, de la musique, de l'écriture, que tout a déjà été fait. De toute façon, on en revient aux thèmes, comme tu disais, Pierre, archétypaux, qui sont les thèmes qui intéressent l'humanité qui sont les passions, qui sont les conflits humains, qui sont la famille aussi très très importante, qu'il s'agisse de la mythologie ou des contes, le symbolisme, et là je pense au Minotaure, à ton Minotaure, Xavier.
Ah oui.
Que j'ai adoré. Voilà, je te renvoie l'ascenseur sur le coup. Voilà, il y a énormément de choses, énormément de... d'idées, de questionnements qu'on peut trouver à travers les contes, à travers les mythes, à travers d'autres écrits. Et la question, effectivement, est-ce que ce que nous écrivons, même si on invente, et même si on crée des mondes, et même si on crée des personnages, de toute façon, ça sera toujours les mêmes questions qui se posent. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. De toute façon, j'ai l'impression, depuis que j'écris, depuis que j'ai fait même ma thèse, je travaille sur l'altérité, sur le monstre, sur la mort, sur le deuil, et je n'en sors pas. Et à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir une réponse, il y a 15 000 autres questions qui arrivent.
Tu as prouvé, Pierre, quand on dit on refait toujours la même chose, on est toujours dans le même domaine. Toi qui es passé de 1792 à 1994 avec des histoires de révolution française alternative, qui parle des derniers hommes, qui parle de l'évangile du serpent. Est-ce que tu as l'impression aussi de toujours traiter les mêmes choses?
Si je dis que oui, les auteurs, c'est sacré paresseux. Ils font toujours la même chose.
Non, parce qu'ils trouvent des formes différentes.
Non, mais on dit toujours qu'un auteur écrit toujours le même livre, et je pense que c'est un petit peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a des obsessions qui traversent les œuvres et qui se retrouvent déclinées de toutes les façons, quelles que soient les époques. Je pense effectivement que... on est des humains qui s'adressent à des humains et qui parlent de préoccupations humaines et que nos préoccupations, on essaie de les transmettre d'une façon ou d'une autre au lecteur, ne serait-ce que pour les inciter à s'interroger peut-être ou à changer leur point de vue, ce qui serait déjà pas mal. Évidemment, on écrit, enfin moi j'écris en espérant que ça va changer quelque chose dans l'esprit du lecteur. Quel orgueil, n'est-ce pas?
Mais non, mais c'est plein d'espoir, on est tous plein d'espoir.
Ouais. Au moins déplacer le point de vue, au moins ça menait à se poser des questions, parce qu'évidemment un auteur n'a jamais de solution, je pense pas. Ou alors ce serait l'utopie bonheur pour tous forcé, ce qui ne serait pas terrible non plus. Au moins donc, le récit sert, je pense, ou le fait de travailler avec les mots sert à peut-être, effectivement, que le lecteur puisse se poser quelques questions sur le monde qui l'environne, ou soulever des pierres pour voir ce qu'il y a en dessous, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, alors j'en ai touché deux mots là avec l'évangile du serpent que vous ne pourrez pas trouver parce qu'il n'y en a plus d'exemplaires en vente, désolé, pour ceux que ça aurait intéressé.
Mais en librairie, il y en a.
Oui, bien sûr, il y a en rupture là au festival. C'est la différence entre justement la liberté individuelle, c'est vraiment une obsession chez moi, c'est-à-dire comment faire cet équilibre entre la liberté individuelle et le fait de vivre en groupe sans être à la fois victime du groupe et sans que le groupe soit victime de son individualisme forcené. Donc c'est un équilibre assez délicat. Il y a un penseur qui m'aide beaucoup dans cette recherche-là, il s'appelle Krishnamurti. C'est un penseur indien qui dit que la pensée emprisonne. Et je suis beaucoup dans ces univers-là de... comment est-ce qu'une pensée peut être emprisonnée? La pensée est toujours victime du temps, finalement, ne fonctionne que dans le temps, dans la chronologie, il appelle ça le temps psychologique. Et comment est-ce qu'on s'enferme nous-mêmes dans un temps psychologique? Et la révolution est un extraordinaire exemple, parce que la révolution est notre vache à lait, notre vache sacrée, je veux dire plutôt. C'est-à-dire, c'est la chose qui nous fonde en tant que république et en tant que société moderne, une société des Lumières. Et la révolution, elle est pleine de trous, elle est pleine de défauts. Et j'ai pu m'en rendre compte en étudiant cette période-là, où il y a un mécanisme de pensée qui se met en marche. Et ce mécanisme, c'est juste une reprise des vieux mécanismes archaïques qui fait qu'on va se retrouver dans un temps psychologique et qui va produire exactement les mêmes effets, c'est-à-dire des massacres. Et ça, c'était important pour moi de découvrir ça, parce que ce mouvement qui était liberté, alors c'est exactement comme l'Église, hein, aimez-vous les uns les autres et on se massacre joyeusement. Et là, c'était liberté, égalité, fraternité et on se massacre joyeusement. Puisqu'il y a des gens qui ne sont pas pour la liberté, l'égalité, fraternité, donc on va les massacrer. Donc il y a un léger paradoxe qu'on n'étudie malheureusement pas dans notre histoire officielle, parce que, encore une fois, c'est une vache sacrée à laquelle on refuse de s'attaquer, de peur de débranler les fondements de notre civilisation, de notre démocratie. Alors je pense qu'il faut rentrer dans ces mécanismes-là, et on s'aperçoit que c'est toujours, toujours les mêmes. À partir de quand est-ce que la liberté... Moi, je suis vendéen, donc évidemment, l'histoire de la Vendée massacrée par la Révolution, elle est vraie. Elle a été niée longtemps, mais elle est réelle. Et ces gens avaient aussi le droit de s'exprimer en tant qu'individu, c'est-à-dire, voilà, on préfère Dieu à l'être suprême. Désolé, c'est comme ça. On préfère les prêtres, alors que je vitupère contre les prêtres aussi, hein, donc, mais on a le droit de choisir ses propres prêtres aussi, etc., etc. Il y avait des vraies raisons, il y a une vraie écologie régionale qui existe, et qui ne correspond plus à un pouvoir central et qui est éliminé sans pitié. Et c'est toujours ces mécanismes-là qui me fascinent, et je pense que quelque part, on retrouve ça dans l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, c'est la confrontation entre l'islam et la chrétienté, en gros. C'est cette guerre de religion qu'on nous avait promise après les attentats du 11 septembre et qui, quelque part, est à l'œuvre parce qu'on a manqué une opportunité fantastique à propos du 11 septembre. Ça paraît débile de dire ça. Ce côté spectaculaire d'avions s'encastrant dans les tours, on aurait dû nous alerter sur le fait que quand il y a des déséquilibres dans le monde, il y a forcément ce genre d'événement qui se produit, c'est un mécanisme. Et c'est non pas les gens là-bas, ils sont méchants et nous on est des gentils, on va leur casser la gueule, parce que ça s'est toujours fait dans l'histoire, ça donne toujours les mêmes résultats. Et je me suis dit, ce résultat-là, je vais aller le prolonger en tant qu'auteur de science-fiction, donc une possibilité d'anticipation, je vais dire, ben voilà, je vais provoquer ce conflit-là, et on va voir que c'est pas beau, c'est sale même. Et plus on le fait au nom de Dieu, et plus on tue, et plus c'est horrible. Et donc voilà, c'est ces mécanismes-là qui m'intéressent, parce que, et là je me réfère toujours à Krishnamurti, c'est la pensée qui produit toujours les mêmes effets parce qu'elle est prisonnière du temps, elle n'est pas capable de s'échapper du temps, elle n'est pas capable de voir le nouveau dans chaque chose, le changeant dans chaque chose, le mouvement dans chaque chose. Donc ça, c'est un peu mes obsessions.
Xavier, vous voulez
réagir ? Oui, tout simplement en résonance avec Pierre, parce que j'écoutais, je travaillais sur les mêmes thèmes, comme quoi la mythologie quand même trace des chemins, des chemins importants, et liberté individuelle, religion, pensée du temps. Pour le dernier American Gothic, je suis parti de deux états de l'Amérique qui sont le McCarthyisme, qui est une sorte de paranoïa collective, d'invention d'un récit avec des méchants cachés, enfin il y a une partie irrationnelle et qui est une création collective. Et ça m'intéressait de comparer le McCarthyisme au début d'une certaine civilisation américaine à Boston au XVIIe siècle. Et il y a un truc qui m'a épaté. C'est que bon, le révérend le plus important de Boston au XVIIe siècle, c'est Cotton Mather, qui est surnommé le chasseur de sorcières, qui est quelqu'un qui n'a pas hésité à faire tuer l'épouse du gouverneur. Il a fait enterrer, répandre des épines sur son corps et clouer par une perche qui sort à plusieurs mètres au-dessus du sol. Donc, c'est voir la détermination.
Ces gens-là.
Voilà. Oui, et puis
comme ça, il est sûr qu'il ne reviendra pas. Hein,
oui, voilà, c'est ça. Mais il faut voir la détermination. On s'en prend à l'épouse du gouverneur. Et ce Cotton Mather est. Alors, ça, c'est Cotton Mather. Bon. À Boston, il y a une jeune fille, jolie, en dépit de ses vêtements sévères, tout le monde remarque sa beauté. Et il va y avoir, ça commence comme un joli conte de fées, il y a un jeune anglais qui arrive par bateau qui s'appelle Man of the Moon, en plus le bateau, et lui s'appelle Goose, il est plein d'énergie, il veut devenir marchand, etc. Et il va épouser cette Elizabeth qui... Et en fait, la deuxième Elisabeth, puisque sa sœur était morte, elle a été renommée comme ça, d'une mère qui s'appelle Elisabeth. Donc pour commencer dans la vie, c'est pas évident. Hein. Et elle épouse donc ce jeune marchand qui lui donne son nom. Elle s'appelle Elisabeth Goose. Et c'est elle qui va écrire pour ses enfants les premiers contes de ma mère-loi américains. Et le révérend ami de la famille qui les a mariés, c'est Cotton Mather. Et moi, ça m'a épaté que à Boston, enfin cette espèce d'ange noir qui a peur de rien, qui est prêt, c'est l'instructeur du procès de Salem. Enfin, c'est épouse une, enfin épouse non, marie une jeune femme, son jeune époux, et que cette jeune femme dans cette bulle ce carcan horrible qu'est la Boston puritaine va inventer des contes d'un imaginaire mais exubérant qui sont cruels, hein, c'est pas une tartine de miel, hein, c'est pas des contes qui viennent conforter la dictature religieuse par qui serait anodin et tout, qui sont des contes cruels mais qui respirent les esprits des champs, la tombée du soir, le bruissement des maïs. Il y a beaucoup d'effets terribles qui sont dus à la nature. Et on voit que grâce à Elisabeth, il y a une espèce de bulle de liberté qui se fait, c'est les contes de ma mère-loi. Et là, donc, on en retrouve politique, religion et imaginaire et liberté.
Et la mythologie américaine en formation aujourd'hui est basée en partie sur ces contes de la mère-loi, en partie sur le magicien d'Oz, en partie sur le western.
Ah oui, le western, oui. Hasard de la production vient de sortir, indépendamment de la qualité, hein, mais Le Magicien d'Oz et Jack le Tueur de Géants. Jack, c'est le héros de la plupart des contes de ma mère-loi. Avec Jill, qu'on oublie trop, à mon avis, qui est son amie, fille Jack et Jill. Le Magicien d'Oz, oui, complètement. Et puis. Des auteurs comme bon, bien sûr Mark Twain et Stephen King. Stephen King est un lecteur parfaitement honnête dans dans ses références, qui a absorbé tout cet imaginaire proprement américain et la côte est. Hein, parce que tu parles, t'as bien fait faire la distinction. C'est western et côte est n'est pas le même imaginaire. Hein, et King a parfaitement réinterprété, rendu avec une langue moderne. Justement la peur des champs de maïs, des forêts, des petits villages et ce qui se passe derrière, tout ce qui est de cracra derrière une jolie fenêtre allumée.
Mais cette peur, je m'excuse de te poursuivre, mais cette peur, elle vient d'où ? De la solitude, de la colonisation, des ruraux qui se trouvaient dans les champs presque seuls ?
Je pense qu'il y a une espèce de terreur sacrée qui est devant l'immensité, la beauté de la nature. Les pionniers, c'est à la fois un courage et une inconséquence. Il y a l'être humain, on voit avec le magicien d'Oz, avec Dorothy, c'est la tornade dans un champ de blé. Je pense que l'être humain est écrasé, prend conscience de sa petitesse pour une fois, et ça lui débloque des structures de l'imagination, de la pensée qu'il avait endormie, qui se réveille avec la formidable puissance, majesté de la nature.
Mais je trouve que c'est aussi ce qu'on voit dans les peintures de Thomas Cole, qui vraiment représente le wild, avec à échelle complètement démesurée.
Les peintures de qui, répète le nom ?
Thomas Cole.
Davantage.
Il faut les voir, c'est immense. Je pense que tu en as vu, Xavier, non ? Thomas Cole.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment, c'est immense, c'est même sans personnage, on a cette espèce de démesure du wild, on est vraiment plongé dans un ailleurs qui est à la fois fascinant pour le coup et qui peut faire peur. Où on a des paysages rouges, gris, crépusculaires, ou au contraire des forêts, et on s'imagine effectivement tout petit, colon, avec une vague petite charrette et un feu, on se dit je survis comment ? C'est ça.
Alors, quand même, moment côte est, il y a la peinture new-yorkaise, c'est une peinture, la distinction se fait de l'urbanisme et tout. Bon, ça, on le tient, on est chez nous, on est tranquille, oh là, on va peindre l'avenue et au bout de l'avenue, il n'y a plus rien, c'est chez nous. C'est... Oui, bien sûr.
Et je crois d'ailleurs que le titre du livre de Xavier, American Gothic, fait référence à un tableau qui s'appelle American Gothic, que... Vous reconnaîtrez, si vous le voyez, c'est simplement un paysan et sa femme devant leur ferme. Le paysan sévère, habillé sévèrement, avec une fourche. Et la simple petite fantaisie, c'est je crois, un peu de dentelle sur le vêtement de la femme. C'est une image qui montre une certaine solitude, une sévérité de la nature et de ce qui se trouve autour d'eux. Et sans doute, cette attitude de sévérité est due à la peur de ce qui se trouve autour d'eux. C'est exactement ça, et le titre est vraiment bien choisi pour raconter cette naissance de cette mythologie-là.
Ce qui est intéressant avec les États-Unis, c'est que c'est un pays qui se mythologise en permanence.
Voilà.
C'est Hollywood, une fabrique de mythologie, beaucoup d'écrivains, donc une énergie mythologique forte. Et c'est pas étonnant non plus que l'âge d'or de la science-fiction se situe aux États-Unis, parce que Amin Zegar, c'est une littérature pionnière, et c'est une littérature qui repose beaucoup sur les archétypes mythologiques, et que les Américains ont trouvé là aussi un terrain d'expression très fort. Pour fabriquer leur propre mythologie, puisqu'ils en manquaient. Et que donc voilà, ils sont. Et c'est fascinant de voir que, par exemple, nous, la guerre d'Algérie, et non pas les événements, donc la guerre d'Algérie, a mis des années et des années avant d'avoir des films. D'ailleurs, les films comme Avant 20 ans dans les Aurès étaient censurés, interdits pendant, je ne sais pas, 30 ans environ. Alors qu'aux États-Unis, sur la guerre du Vietnam, il y a eu une pléthore de films tout de suite, parce qu'ils ont toujours le besoin de reprendre cette histoire récente et de la mythologiser. Et le western est un exemple formidable, quoi, parce que ça reprend aussi les canons de la tragédie grecque, etc. Donc il y a une sorte de remélange de tout ça qui fait que ce pays était vraiment une fabrication de mythes en permanence, quoi. C'est plutôt un pays d'histoire qui se raconte en histoire plutôt qui se raconte ses histoires, quoi, en permanence.
Et puis qui vient vers nous, j'ai aussi l'impression qu'on finit nous-mêmes par s'approprier de la mythologie américaine. Les légendes urbaines, les théories du complot, ce genre de choses. Et ça vient. Et puis même, ça vient par les films d'horreur, ça vient par des lectures.
Par les comics.
Oui, par les comics aussi. Les super-héros, évidemment. Mais qu'on est en train de... Voilà, c'est une espèce de grand chaudron qui bouge en permanence.
C'est d'ailleurs un peu en réaction à ça aussi que Serge Lehmann invente avec les Brigades Chimériques une série de BD, invente des super-héros français, sinon même franchouillards.
Mais il y avait Super Dupont avec Gottlieb.
Oui. Et il y avait Super Dupont avec Gottlieb aussi, oui.
Avec le Super Dupont, Super Dupont est plus en réaction. Je pense que Serge est tributaire des héros américains, parce que c'est... c'est pas une opposition, c'est une continuité très bien écrite et très belle. Super Dupont, c'était contre.
Oui, c'était
l'opposition. C'était de la parodie.
C'est de la parodie, voilà. Ouais. Mais c'est ce qui a manqué peut-être, et c'est ce qui manque peut-être à la formation de l'Europe actuellement, qui est uniquement centrée sur le plan économique et financier. Et que je pense que le vrai ciment de l'Europe, c'est la mythologie, justement. Enfin, c'est une histoire commune qu'on ne sait pas, que les hommes politiques, par exemple, ne savent pas du tout manipuler. Quoi. On reste toujours au niveau d'euros et de machins et de trucs.
Là, c'est ce que tu disais sur le temps, le court terme. Hein. Ouais. Tant qu'on ne sera pas capable, les politiques ne seront pas capables d'envisager quelque chose sur le long terme et d'un point de vue humain, on est mal barré.
L'Europe ne fait pas rêver, quoi.
Non.
Mais elle nous fait chier, maintenant. Faut
Mais encore faudrait-il alors que l'Europe parvienne à mixer les différentes mythologies qui la composent, parce qu'il n'y a pas que la grecque, la romaine, il y a la mythologie scandinave et germanique dont on n'a pas parlé. Et ça, est-ce que c'est possible de s'approprier une série de mythologies et de la fondre dans un projet commun ?
Ce qui est marrant, c'est que c'est les Américains qui récupèrent les mythologies européennes pour en faire leur propre mythologie à eux, quoi, alors que nous, on n'est pas capable de le faire.
Et la mythologie scandinave en particulier aussi.
Via Tolkien et tout ça, et les films se font aux États-Unis. On a l'impression que c'est un genre du coup américain, alors que d'où se fondent les gens, se fondent de mythologie, il est purement européen à la base.
Et quand tu regardes l'Est aussi, les pays de l'Est, que ce soit vampire ou pire ou tout ce que tu veux, ça vient de l'Est, et on se retrouve avec... Twilight. mais c'est vrai que cela pas trop, enfin il brille un peu trop pour moi. Mais en fait, ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que quand tu vas, par exemple, tu vas en Bulgarie, les gens te disent mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Or la Bulgarie, c'est la Thrace. Donc c'est quand même c'est la région d'Orphée, enfin c'est la pays de naissance d'Orphée. C'est ce territoire-là, c'est des territoires qui sont extrêmement riches, qui ont une culture extrêmement variée. Et je pense que tant qu'on n'aura pas, en tout cas, ex-Europe de l'Ouest a pris à ouvrir les yeux, à accepter et se dire que non, c'est pas parce qu'on est bulgare qu'on est un sous-homme. Voilà, je pense qu'il faut déjà qu'on fasse des progrès humains avant et qu'on apprenne à ouvrir les yeux avant de, oui, je sais pas, de faire d'envisager une pensée mythologique. Vraiment, il faut réapprendre à aller vers l'autre on va pas jusqu'en Bulgarie pour manger des yaourts, quoi. Je sais pas.
J'allais dire ça, quand on fait des bons yaourts, on peut pas être un sous-homme. Pas vraiment.
C'est Boris Eltsine qui, répondant à un journaliste, demandant s'ils envisageaient un jour d'envahir la Roumanie. Il avait répondu avec mépris, pourquoi on envahirait la Roumanie avec des gitans et des vampires.
Ça, c'est la mythologie en
fait,
bas.
Très occidentaux de l'Ouest,
bah, oui. Eltsine. Très, ouais.
Eh bien, il est passé -10, c'est l'heure de s'arrêter. Et c'est en effet passé très très vite. Merci à Charlotte, Pierre et Xavier. On est passé de la mythologie grecque à la mythologie européenne en devenir. Merci de votre attention et bon après-midi.
Non, c'est grâce à toi, grâce à toi. Thank you.